Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Cédric Fuentes, Arjuna Andrade, Louis Drillon et Julie Delabrosse. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Anthony Thomasson.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Troisième étape de notre semaine consacrée à l'économie de la mer. Après avoir retracé l'histoire des grandes routes maritimes et vu comment le droit redessinait les frontières des océans, on s'intéresse aujourd'hui aux enjeux de la pêche en Europe. En 1870, Jules Verne dénonçait dans 20 milieux sous les mers l'acharnement barbare et inconsidéré des pêcheurs qui fera, disait-il, disparaître un jour la dernière baleine de l'océan. 150 ans plus tard, les menaces sur les écosystèmes marins et la raréfaction des stocks de poissons sont désormais connues, mais sont-elles suffisamment combattues et quelles sont les conséquences de ces phénomènes pour les pêcheurs eux-mêmes et pour un secteur fragilisé? C'est ce que l'on va voir dans l'heure qui vient. Il est 14h sur France Culture et aujourd'hui encore, on prête l'oreille à l'écho du grand large. Comment l'Union européenne peut-elle aujourd'hui soutenir le secteur de la pêche dans un contexte de surexploitation et de dégradation des écosystèmes? On en parle avec Didier Gascuel, enseignant-chercheur à AgroCampus Ouest à Rennes, et Pascal Le Floch, en duplex de Quimper, maître de conférence au Centre de droit et d'économie de la mer de l'IUT de Quimper. À 14h50, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho. Didier Gascuel et Pascal Le Floch, bonjour.
Bonjour.
Alors, l'Union européenne est aujourd'hui le troisième producteur mondial de pêche et d'aquaculture, derrière notamment la Chine. Et chaque année en Europe, ce sont 6 millions de tonnes de poissons qui sont pêchés. L'Europe qui compte environ 90 000 navires et qui possède le plus grand territoire maritime au monde. Est-ce que pour commencer, on peut dire que le secteur de la pêche est aujourd'hui essentiel pour l'Union européenne, Didier Gascuel?
Oui, c'est un secteur important qui représente de l'emploi, qui représente des enjeux quelque part stratégiques. Après, la place de la pêche dans les sociétés européennes a beaucoup diminué depuis un siècle. C'est aujourd'hui un secteur qui est beaucoup moins important, par exemple, que l'agriculture.
Et alors, Pascal Le Floch, vous diriez que c'est un secteur essentiel. On dit que la pêche, l'aquaculture et la transformation des produits de la mer contribueraient à moins de 1% du PIB de l'Union européenne. Donc il y a eu une diminution très très importante au cours du dernier siècle.
Oui, tout à fait. Alors, c'est un secteur essentiel. Alors, si on prend une approche purement économique, on ne voit pas la pêche dans les statistiques globales, dans la macroéconomie. Mais c'est pour une autre raison que, notamment, les économistes s'intéressent à la pêche, puisque c'est un accès libre si on n'y met pas des politiques publiques. Et donc, l'importance économique doit se voir surtout à l'échelle territoriale.
Alors, qui sont aujourd'hui les plus grands producteurs de poissons en Europe, pour commencer à faire un panorama, Didier Gascuel?
Essentiellement quatre pays, l'Angleterre, le Danemark, la France et l'Espagne, mais avec des pêches très différentes. Une pêche très industrielle au Danemark qui fournit des gros volumes de production, mais qui représente un petit nombre de pêcheurs, et une pêche avec beaucoup plus de pêcheurs chez nous et encore plus en Espagne.
Comment se situe la France, Pascal Le Floch, dans ce panorama européen des grands pays pêcheurs?
Alors, la France est dans une situation intermédiaire, déjà par les différentes façades maritimes. La France prend plein pied dans la politique commune des pêches des 83 et bien avant, mais avec la façade méditerranéenne, naturellement, il y a une grande diversité. Et vous disiez tout à l'heure qu'il y a 90 000 navires de pêche en Europe. Sur les 90 000, 80 000 sont des navires de moins de 12 mètres, donc des petites unités.
Alors, au cœur de la réglementation de la pêche par l'Union européenne, dont on va parler tout au long de cette émission, il y a cette fameuse politique commune de la pêche qui, à l'origine, il faut l'expliquer, fait partie de la politique agricole commune, Didier Gascuel. Alors qu'évidemment, la question agricole et la question de la pêche sont extrêmement différentes.
Oui, les premiers textes européens qui concernent la politique commune des pêches ont été pris en 1970 et en réalité faisaient partie à l'époque de la politique agricole. Et ceci a créé une espèce de naissance, je dirais, dans une très grande ambiguïté du secteur, de la politique européenne des pêches. Parce que, alors même qu'on savait déjà que les stocks étaient surexploités, qu'il fallait limiter la pression de pêche, les premières mesures qui ont été prises ont contribué à accroître le nombre de navires, à subventionner de nouveaux navires, à soutenir les prix, etc. Donc, l'Europe des pêches est née, je je dirais, d'une certaine manière, sur la trajectoire de l'absurde, du mettons toujours plus de bateaux pour finalement diminuer de plus en plus les stocks et pêcher de moins en moins.
Pascal Le Floch, vous diriez aussi que cette politique commune de la pêche a peut-être été mal pensée au départ, aussi parce qu'elle a été incluse dans la PAC, dans la politique agricole commune.
Alors c'est surtout et d'abord une affaire de négociation, puisque 73 c'est l'adhésion des principaux pays pêcheurs, le Danemark et le Royaume-Uni, l'Irlande aussi, ce qui veut dire que le Royaume-Uni et le Danemark vont participer à la négociation en 76 sur le partage des quotas, et donc c'est d'abord une affaire de négociation entre pays qui souhaitent garder leur souveraineté.
Alors à quel moment se rend-on compte justement que l'on a besoin d'une politique commune de la pêche, peut-être en effet lorsque les stocks de poissons commencent à se raréfier?
Dans les années 1960-1970, le poisson commençait à se raréfier. Il fallait trouver un moyen, nous, de ramener du poisson. C'est certain que ça va participer à la surpêche, mais c'était ça où restait à quai. Hein. Et les autres nationalités ne se gênaient pas pour le faire. Eux, ils avaient des bateaux plus gros que les nôtres, bateaux usines.
Petit à petit, la technologie a permis d'affranchir la pêche de son activité de cueillette. C'est comme quand on va aux champignons. C'est-à-dire on n'allait plus en mer avec l'incertitude. C'est-à-dire qu'on a diminué considérablement la marge d'incertitude.
Voilà les voix de deux professionnels de la pêche, Théo Duval et Stéphane Baucher. On peut dire que la prise de conscience survient véritablement dans les années 70, des dégâts de la surpêche.
Oh, la prise de conscience, elle a été très longue, puisque les premiers scientifiques qui ont alerté sur la nécessité de prendre des mesures pour limiter la pression de pêche, sur les risques de surexploitation, ils l'ont fait dans les années 30. Dès après-guerre, il y a eu une conférence qui s'est tenue à Londres, qui s'appelait la Conférence internationale sur la surpêche. Et donc les États ont commencé à réfléchir. Mais à cette époque-là, aucune mesure n'a été prise. Aucune mesure n'a été prise parce que, en grande partie, comme le disait Pascal Le Floch, il y avait des négociations entre États, des enjeux géostratégiques qui étaient prédominants. Donc l'Europe des pêches n'est réellement née qu'en 1983, lorsque on a adopté le premier règlement pêche de l'Union européenne. Et on a commencé à ce moment-là à affirmer un principe de bonne gestion de la ressource. Mais encore à cette époque-là, en réalité, aucune mesure n'a été prise. Il a fallu attendre 20 ans de plus pour que les premières mesures efficaces se mettent en œuvre.
Et il faut peut-être dire aussi que c'est lié au fait qu'à cette époque, dans les années 70, de nombreux États sur d'autres continents s'octroient des zones économiques exclusives qui peuvent aller jusqu'à 200 000 des côtes. C'est à ce moment-là que les Européens sont en effet obligés de s'entendre sur l'exploitation de la mer, Pascal Le Floch.
Oui, tout à fait. 1977, hein, c'est l'année à laquelle les pays européens vont étendre leur zone économique exclusive. Et il faut rappeler aussi, puisque bon, j'insiste sur cet aspect de négociation entre pays, que quelques mois avant le 25 janvier 1983, la mise en place de la politique commune de la pêche, il y a tout d'abord une opposition des Britanniques qui souhaitent conserver leurs eaux à 12 000 nautiques. Et quelques jours, voire même quelques heures avant la signature, une opposition danoise très forte.
Alors, vous l'avez dit, la création officielle de la politique commune de la pêche, c'est 1983. Et c'est alors qu'apparaît véritablement la nécessité de préserver les stocks des ressources halieutiques. On crée à ce moment-là des quotas de pêche, Didier Gascoigne.
Oui, alors c'est vrai dans les textes qu'à partir de ce moment-là, on parle de préservation. Mais pendant longtemps, pendant au moins 10 ans, 15 ans, 20 ans, les mesures sont restées très inefficaces. Et la raison en est qu'il y avait une espèce de double schizophrénie. C'est-à-dire que, à la fois, certains fonctionnaires européens travaillaient à la mise en place d'un système de quotas de pêche de plus en plus efficace. Et dans le même temps, d'autres fonctionnaires européens continuaient, sur la lancée des règlements de 70, à mettre en place des mesures de financement du développement des flottilles de pêche, avec de plus en plus de bateaux. Donc, je dirais, la moitié des fonctionnaires européens s'occupant de pêche étaient en train de détruire ce que faisait l'autre moitié. Donc ça, c'est la première forme de schizophrénie. L'autre forme de schizophrénie, c'est que les États ont été contraints, parce que leurs eaux étaient communes, à confier la gestion des pêches à l'Union européenne. Mais celle-ci n'avait en réalité pas de réel pouvoir, et il y avait une schizophrénie, cette fois-ci, entre les représentants des États, qui cherchaient à garder le contrôle, qui refusaient de mettre en œuvre les mesures qui étaient décidées par la Commission européenne, et la Commission européenne qui décidait qui essayait de prendre des mesures.
C'est ce qui explique, selon vous, Didier Gascoigne, que pendant longtemps, ces quotas sont assez inefficaces.
Oui, parce que pendant longtemps, les quotas étaient pris très au-dessus des recommandations des scientifiques. Et même une fois qu'ils étaient pris, ils n'étaient en réalité pas respectés ou plus respectés. Il y avait peu moyen de contrôle. En quelque sorte, on offrait aux pêcheurs la possibilité de pêcher plus de poissons qu'ils étaient de toute façon capables d'en trouver dans la mer. Et donc, les quotas ne servaient à pas grand-chose à cette époque-là.
Et alors, comment ces quotas sont-ils calculés, Pascal Le Floch, et comment est-ce qu'ils sont répartis entre les États membres ? On s'appuie véritablement sur les avis scientifiques.
Alors c'est actuellement le point de clivage entre les scientifiques et les ministres des pêches, puisque on s'appuie toujours sur une négociation qui a été entérinée à la conférence de La Haye en 1976, en prenant la morue comme mesure d'échange, comme étalon. C'est ce qu'on appelle la stabilité relative. Or, et là Didier Gascuel le dira bien mieux que moi, depuis 1976, il y a eu une modification des stocks dans l'espace.
Alors expliquez-nous ça, Didier Gascuel.
Oui, les règles de partage des quotas ont été effectivement décidées au moment où la politique des pêches a été portée sur les fonds baptismaux en 83, en prenant en compte les captures, ce qu'on appelle les captures historiques, c'est-à-dire la quantité que pêchait chacun des pays dans les années qui précédaient. Et on a fait cette répartition en quotas sur la base des connaissances qu'on avait à l'époque. Le quota pour la morue de mer du Nord, le quota pour les langoustines du golfe de Gascogne, etc. Depuis, les connaissances scientifiques ont beaucoup évolué. On s'est aperçu que les limites des quotas ne sont pas ce qu'on pensait à l'époque. On a été amené à redéfinir des unités fonctionnelles, qui sont les vraies unités de gestion sur lesquelles il faudrait baser les quotas, mais les règles de stabilité relative, les règles de partage des quotas sont restées inchangées. Donc il y a une espèce de gap entre le travail des scientifiques d'un côté et la fixation des quotas de l'autre. En plus, ça rend le système très, très opaque et très incompréhensible pour l'ensemble des acteurs qui voient arriver des quotas de pêche dont ils ne comprennent pas fondamentalement le pourquoi.
Et cette possible évolution de ces quotas, elle fait aujourd'hui l'objet de négociations ?
Non, pas vraiment, parce que la règle de la stabilité relative est toujours là et que personne ne veut rediscuter les clés qui ont été si âprement négociées dans les années 70.
C'est en tout cas l'objet de luttes de pouvoir et d'influence importantes entre, en effet, les différents lobbies et les scientifiques.
Les pêcheurs français avaient promis de s'opposer à la réforme de la pêche voulue par Bruxelles. Finalement, l'accord signé hier soir leur est plutôt favorable. Après 5 jours de négociations, les amis de la pêche ont eu raison des amis des poissons. La Suède et l'Allemagne, qui militent pour une sauvegarde des stocks de poissons, ont d'ailleurs refusé de voter ce texte. Principale disposition, le maintien jusqu'à fin 2004 des subventions publiques au renouvellement des bateaux. Une décision qui satisfait à court terme les pêcheurs. Réaction de la Fédération nationale des pêcheurs de France. Son secrétaire général Loïc Jagot a participé aux négociations.
Pour les pêcheurs, nous avons sauvé l'essentiel, ce qui veut dire que nous aurons quand même des conditions qui permettront de survivre pendant l'année 2003. Mais d'un autre côté, je mesure aussi les contraintes qui sont imposées aujourd'hui aux pêcheurs, car le métier va devenir beaucoup plus difficile, car on imposera des jours de mer ainsi que des réductions sur certains quotas qui sont quand même stratégiques pour la pêche française. C'est vrai que c'est dur à comprendre pour ceux qui n'ont pas l'habitude des conciliabules bruxellois. 5 jours et 4 nuits, parce que j'insiste là-dessus, de négociations, c'est toujours très long. Nous, en tant que professionnels, nous avons notre travail à faire, mais bien évidemment, c'est l'équipe gouvernementale qui est au front elle-même. C'est vrai que c'est un jeu compliqué d'alliance entre les uns et les autres. Mais je dois dire aujourd'hui que le fameux front des amis de la pêche semble avoir été uni. Et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de survivre, et j'en suis persuadé.
Voilà un extrait d'un reportage de France Inter au moment de la réforme de la politique commune de la pêche en 2002. On l'entend, il y a de véritables batailles qui se jouent à Bruxelles, Didier Gascuel.
Oui, fin des années 90, début des années 2000, c'est le moment où la surexploitation culmine. Plus de 90% des stocks exploités dans les eaux de l'Union européenne à ce moment-là sont considérés comme surexploités. Et pour vous donner juste un autre chiffre, on estime que chaque année, en moyenne, on pêche 45% de la biomasse de chacun des stocks présents dans l'Union européenne. 45% des morues, 45% des langoustines, etc. Donc on est à des niveaux où l'abondance des stocks s'effondre et la capture diminue et de très nombreuses entreprises de pêche sont dans une très grande difficulté économique à ce moment-là. C'est ça aussi qui crée une prise de conscience, c'est la réalité économique que vivent les entreprises, la réalité de la surexploitation qui va imposer progressivement à ce que des mesures plus efficaces soient mises en œuvre.
Et alors justement, quelles mesures sont mises en œuvre à ce moment-là pour remédier à cette situation ?
Alors, d'une part, on met en place ce qu'on appelle des plans d'orientation pluriannuels, qui sont en réalité des plans de limitation du nombre de navires. Donc, progressivement, on va limiter le nombre de navires, le réduire, imposer que tout nouveau navire construit vienne en remplacement des navires précédents. Et puis, on va réduire et finalement complètement éliminer les subventions qui étaient données à la construction de nouveaux navires. Et l'autre volet très important, c'est la mise en place d'une politique des quotas qui devient enfin réellement restrictive. On a, au début des années 2000, une diminution très forte des quotas. Non pas parce que les stocks s'effondrent à ce moment-là, mais parce qu'enfin on aligne les quotas sur les avis scientifiques, ou en tout cas on est plus proche de l'avis scientifique. Donc les quotas deviennent un vrai outil de gestion de la pression de pêche, de limitation de la pression de pêche.
Pascal Le Floch, on peut dire que cette politique des quotas, elle commence à devenir véritablement efficace à partir des années 2000. Alors, Pascal Le Floch, je crois qu'on a perdu la liaison avec Pascal Le Floch, Didier Gascuel.
Vous m'entendez ?
Oui. Alors, effectivement, c'est le début d'un renversement de tendance. Et on a aujourd'hui des évaluations très précises de ce qui s'est passé depuis une quinzaine d'années, donc depuis cette période des années 2000. En moyenne, sur les grands stocks européens, sur la façade atlantique, pas côté atlantique, on en reparlera peut-être, mais sur la façade atlantique, la pression de pêche est, sur ces 15 ans, presque divisée par deux. Je vous disais, on pêchait 45% en moyenne de chacun des stocks. On est aujourd'hui descendu à 25%. C'est-à-dire, il y a moins de bateaux, il y a des quotas plus restrictifs, on s'est rapproché effectivement des conditions d'une pêche plus durable. C'est une valeur moyenne, on est probablement encore loin de l'objectif. Il y avait 90% des stocks surexploités, on en est encore aujourd'hui à 50 ou 60% des stocks. C'est une amélioration, elle est appréciable, mais on n'est pas au bout du chemin.
Alors, Pascal Le Floch, je crois qu'on a retrouvé le lien avec vous, la liaison. On parlait de cette politique des quotas de pêche qui devient véritablement efficace à partir des années 2000. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, elle est utilisée dans de nombreuses régions du monde et est-ce qu'elle est utilisée également en Méditerranée ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en 1988, il y a une prise de conscience en Europe que les quotas sans limitation du nombre de navires, on reste toujours dans la course aux poissons, dans le derby fishing. Donc là, on va mettre en place des permis de mise en exploitation. Comme le disait Didier Gascuel, si la prise de conscience de la surexploitation est relativement ancienne par les scientifiques, 1992 marque un tournant. On trouve dans la presse spécialisée en France et en Europe les premiers signes de faible abondance dans les ports. Et 92, c'est naturellement John Crosby, le ministre canadien, qui annonce le moratoire de la morue au Canada.
Alors, il faut expliquer aussi que ce système de quotas est complété par d'autres instruments, notamment la limitation de l'effort de pêche. Il y a un nombre de jours en mer à ne pas dépasser. Et on définit aussi des règles techniques, comme la taille des mailles de filet, Didier Gascuel.
Oui, alors progressivement, on a effectivement défini des tailles minimales de capture sur la plupart des espèces et des tailles minimales des mailles des filets utilisés sur les chaluts, etc. Ça, c'est un aspect très important parce qu'on sait que en se limitant à la capture des poissons les plus gros, les plus vieux, on peut continuer finalement à pêcher tout autant, mais avec des impacts beaucoup plus faibles sur les ressources et sur les écosystèmes. Donc on a fait des progrès dans cette direction. Très franchement, ils sont encore largement insuffisants. Les tailles minimales de première capture, pour la plupart des espèces, sont aujourd'hui inférieures à l'âge de première fécondité. Il faudrait les augmenter de manière importante. Mais l'évolution est en cours.
Ce qui est aussi mis en place à partir des années 2000, c'est l'interdiction des rejets en mer et une aide accrue aux flottilles des pêches artisanales. Pascal Le Floch, quel bilan on peut tirer de ces deux mesures ?
Alors, il y a deux mesures importantes au niveau français. En 2006, on va reconnaître la nécessité d'individualiser les droits de pêche avec un arrêté qui est mis en place. Ça veut dire que progressivement, ce qui a toujours été un sujet tabou, au moins dans les pêches françaises, c'est le fameux quota individuel transférable, c'est-à-dire donner la possibilité aux pêcheurs de vendre ou d'acheter des quotas. De toute façon, si le marché officiel n'existe pas, un marché parallèle nécessairement va se créer. Et la deuxième mesure, à l'échelle européenne, c'est en 2014, l'obligation de débarquer les rejets.
Alors, il faut peut-être dire un mot de cette pêche artisanale qui, évidemment, à Bruxelles, ne dispose pas du tout des mêmes moyens de pression, comme on va l'entendre.
Les pêcheurs artisans, ce sont eux qui correspondent aussi à l'aspiration des Français d'avoir du circuit court. On n'a plus envie d'un poisson pêché, je sais pas où, par des énormes chalutiers qui arrivent, qui est transformé en chine, qui est décortiqué, je sais pas. On veut plus de ça, en fait. Donc c'est notre meilleur espoir pour de la pêche durable, c'est clairement de la pêche artisanale avec des méthodes douces pour l'environnement. Après, ça n'empêchera pas, en effet, d'avoir quelques bateaux industriels. qui peuvent œuvrer au large, mais avec des méthodes et puis une éthique, on espère, de travail la plus stricte possible.
Claire Nouvian, présidente de l'association écologiste Bloom. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette pêche artisanale? Est-ce qu'il y a quand même une volonté politique de la soutenir, Didier Gascuel?
Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que, contrairement à ce que croit souvent le grand public, on ne peut pas dire que la pêche industrielle est le mal et la pêche artisanale est le bien. Notamment en matière d'impact écologique, il y a des navires industriels qui ont des pratiques tout à fait vertueuses, et à l'inverse, des pêches artisanales qui sont très impactantes sur le milieu.
C'est important.
Finalement,
de le dire.
Ce qui est important, c'est beaucoup plus l'engin de pêche utilisé. Mmh. Effectivement, il existe un segment de petite pêche côtière qui utilise des méthodes de pêche douce auxquelles fait référence Claire Nouvian et qui, d'un point de vue écologique, est certainement très en avance. Et puis, il y a une deuxième dimension qui est la dimension économique et sociale. C'est-à-dire que la question fondamentale, c'est comment nous bénéficions ou comment nous faisons bénéficier le plus grand nombre d'acteurs possibles des services que nous rendent les écosystèmes et notamment de la production halieutique qu'ils nous fournissent. Combien d'emplois créés par tonnes de poissons pêchés? Et quel impact sur l'aménagement des territoires côtiers, sur la vie des ports et de tous les secteurs d'activité du littoral. Et de ce point de vue-là, alors effectivement, la pêche artisanale a un impact beaucoup plus important et beaucoup plus bénéfique que la pêche industrielle. Donc elle est un outil d'aménagement du territoire dans une politique qui considère que l'aménagement du territoire côtier, c'est important, que ça passe par la pêche, qu'on ne sacrifie pas ce segment-là au détriment, enfin au bénéfice plutôt d'autres secteurs. Le tourisme, par exemple.
Pascal Le Floch, la pêche artisanale, c'est un instrument qu'il ne faudrait pas oublier dans cette politique de la pêche.
Oui, naturellement. Mais alors là, on est sur un sujet passionnant pour les économistes, parce que ça pose la question, qu'est-ce qu'une pêche artisanale? Qu'est-ce qu'une pêche industrielle? Lorsque vous avez un groupe de distribution qui pèse quelques milliards d'euros de chiffre d'affaires, hein, les mousquetaires pour pas les nommer, qui achètent des navires qui sont entre 12 et 14 mètres, qui habituellement sont considérés comme des navires artisans, est-ce qu'on est toujours dans la pêche artisanale ou pêche industrielle? Donc l'économiste doit préciser, doit ajouter ici que pour distinguer pêche artisanale et pêche industrielle, il faut distinguer les deux fonctions, la fonction de propriétaire du capital et la fonction d'entrepreneur. Celui qui entreprend, c'est le patron de pêche qui va être en place les stratégies de pêche, mais qui n'est pas nécessairement le propriétaire du capital. Donc voilà, il faut aussi repréciser ce qu'on entend par ces deux notions, pêche artisanale, pêche industrielle.
Sur cette question de la pêche artisanale, on n'a en tout cas pas le sentiment d'une vraie volonté politique comme on peut l'entendre ici.
La vision, je dirais, idyllique de la pêche au thon, ce serait qu'on n'ait que des canneurs. Que des gens qui pêchent à la canne et qui pêchent le thon de manière simple et responsable et qui mettraient évidemment 3 mois ou 4 mois à pêcher leur quota. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a une flotte de thoniers et senneurs qui, en 2 jours, pêchent leur quota. Bon, c'est comme ça. Je veux dire, on va pas révolutionner tout ça, on va pas détruire ces bateaux, on en a déjà détruit beaucoup, pour revenir à l'ancien système.
Alain Cadec, le président de la commission de la pêche à Bruxelles. On l'entend très clairement, la commission veut soutenir davantage les thoniers senneurs, ces bateaux-usines qui pratiquent la pêche à la senne, c'est un filet de pêche, plutôt que les petits pêcheurs. Cette dichotomie, en tout cas, on l'entend assez clairement dans ce son.
Oui, tout à fait. Alors, c'est une dichotomie très fondamentale sur quel rôle nous assignons dans nos sociétés à la pêche. Dans beaucoup de pays, et notamment en Europe du Nord, et c'est aussi le point de vue de la Commission européenne des pêches, on considère, après tout, que la pêche est un secteur industriel, économique comme un autre, et que, à ce titre, il faut assurer la rentabilité des entreprises de pêche. Autrement dit, on fait le raisonnement économique à l'échelle de l'entreprise de pêche. Et si vous faites le raisonnement à cette échelle-là, il est vrai qu'un très petit nombre de gros navires industriels sont plus rentables qu'une flopée de petits bateaux artisans. À l'inverse, en Europe du Sud, souvent, et c'est un point de vue qui est assez dominant en France, je dirais, parmi tous les acteurs de la société, on considère que la pêche, en général, elle sert à produire du poisson, bien sûr, mais elle a aussi ce rôle dont je parlais d'aménagement du territoire. Et il faut à ce moment-là conduire le raisonnement économique non plus seulement à l'échelle de l'entreprise de pêche, bien sûr, la rentabilité des entreprises de pêche reste un critère important, mais il faut aussi faire un raisonnement à l'échelle d'un territoire, de la société, d'un pays côtier. Quels sont les impacts induits par la pêche, avec les emplois amont-aval, mais plus généralement avec la vie des écoles, le maintien d'un instituteur, d'un garage, d'un coiffeur. Et si on pense que la pêche est l'un des outils d'aménagement du territoire, qu'en l'absence de la pêche, c'est la désertification des territoires, alors oui, on est sur un autre rôle pour la pêche et une autre politique de gestion des pêches qui n'est pas le point de vue dominant actuellement de la Commission européenne.
Didier Gascuel, vous le disiez tout à l'heure, on se rend compte assez rapidement de la surcapacité de la flotte de pêche européenne par rapport aux stocks disponibles. On essaye alors de réduire cette flotte. Comment est-ce que cela se passe concrètement et est-ce qu'il y a de fortes résistances du côté des industriels de la pêche ?
Alors, je dirais, il faut effectivement réduire la pression de pêche. Et pour réduire la pression de pêche, il y a deux façons de procéder. Il y a une façon qui consiste à s'intéresser uniquement aux capacités de pêche, c'est-à-dire au nombre de bateaux, au volume de leur cale, etc. C'est évidemment un élément important. On peut pas nier que quand il y a trop de bateaux par rapport à la production biologique, il y a un problème. Mais il y a une deuxième manière de raisonner qui est de s'intéresser aux droits donnés à chaque navire, ce qu'on appelle les droits d'accès. Combien de quotas en tonnes de poissons, combien de quotas en jours de pêche, quel engin autorisé, quelle zone de pêche autorisée. Et donc, il est dans certains cas rationnel de considérer que les navires ne pêchent pas 361 jours par an, 24 heures par jour, parce que on souhaite maintenir un emploi local, on souhaite maintenir une activité de pêche.
La flotte de pêche européenne diminue alors de 2% par an, mais on peut dire aujourd'hui qu'elle reste en surcapacité, Pascal Le Floch ?
Oui, donc la surcapacité, c'est l'une des portes d'entrée pour les économistes, hein, s'intéressant notamment à la pêche. Alors, les moyens pour tenter de lutter contre cette surcapacité, donc il y a eu les plans de retrait, les plans de déchirage. Le plus connu, le premier en 91, était le plan Mélique, du nom du ministre des Pêches ou secrétaire d'État à la mer à l'époque. Mais à l'échelle mondiale, les plan de sortie de flotte, ça ne marche pas de manière efficace puisque la chasse aux poissons est remplacée par la chasse au kilowatt, c'est-à-dire qu'on va chercher à racheter les navires les plus anciens pour les faire déchirer en échange de subventions et construire des navires neufs. Donc c'est ce qui a expliqué que dans les années 90 à 2000, il y a eu une spéculation du prix des navires d'occasion en France, non pas pour la valeur intrinsèque, pour la valeur physique, puisque c'était des navires de 30-40 ans, mais pour le droit d'accès qui était attaché au navire. Et j'ajoute là-dessus que Didier Gascuel évoquait que les deux premiers règlements de 70 concernent notamment le droit d'accès, avec une non-discrimination des pêcheurs à l'échelle européenne. Et pourtant, les Espagnols qui n'entrent qu'en 86 dans l'Union européenne, enfin dans la CE à l'époque, n'ont pas participé aux négociations de 76, donc n'avaient pas de droits de tirage initiaux, et pourtant c'est la première flottille de pêche. Donc ce qu'ils ont mis en place, c'est un phénomène classique en économie, investir directement à l'étranger par des armements franco-espagnols ou anglo-espagnols.
Mais si je vous suis bien, Pascal Le Floch, ce que vous dites, c'est qu'à une époque, la Commission européenne, l'Europe a poussé pour la construction de navires grâce à des aides publiques, et après, plus tard, ces aides publiques ont été utilisées pour permettre la destruction de ces navires.
Oui, tout à fait. Ça paraît paradoxal et totalement absurde. Hein. On aide à l'investissement dans un premier temps, et pour tenter de faire machine arrière, c'est une politique totalement inverse où on cherche à désinvestir. Mais on voit bien que la diminution du nombre de navires ne signifie pas forcément une diminution de la pression de pêche. Tout simplement parce que les pêcheurs ont démontré leur capacité à innover dans des techniques de plus en plus innovantes.
Mais alors justement, toute la question, c'est le respect de ces mesures. Comment on veille au respect des mesures et jusqu'à quel point sont-elles respectées? Selon le livre vert sur la réforme de la pêche de 2009, ce livre vert avait noté qu'il y avait un faible respect de cette réglementation par le secteur. Didier Gascuel.
Oui, alors là aussi, je pense que les choses évoluent et ont beaucoup évolué depuis une vingtaine d'années. Nous ne sommes plus du tout dans la situation où un pêcheur pouvait allègrement dépasser tous les quotas de pêche. Progressivement, se sont mis en place tout un ensemble de mesures. Les navires sont aujourd'hui suivis, au moins les plus gros, par satellite. Ils doivent, chaque fois qu'ils pêchent du poisson, l'enregistrer dans un journal électronique que tout contrôleur peut vérifier. Donc la pêche est devenue une activité surveillée, contrôlée. Ne soyons pas naïfs, tout le monde ne respecte pas complètement tout. Mais j'ai envie de dire, vous savez, c'est un peu comme le code de la route. La plupart des règles sont globalement respectées. Beaucoup de gens trichent un petit peu, dépassent un petit peu le quota, capturent un petit peu de poissons hors taille. Et puis, il y a quelques vrais chauffards qui mettent tout le monde en danger. Mais en même temps, personne ne dirait que la réglementation ne sert à rien. La réglementation des pêches est devenue très, très efficace d'une certaine manière. C'est elle qui a permis de diminuer la pression de pêche, comme j'ai indiqué tout à l'heure. Et en particulier, la politique des quotas de pêche.
Pascal Le Floch, sur ce respect de ces mesures, on peut dire que la pêche illégale à l'heure actuelle, au moins dans les eaux européennes, reste assez marginale.
Alors, des progrès ont été faits dans les années 90, surtout après cette année 92 que je cite dans mon ouvrage, qui est un point de retournement avec une crise sans précédent en France. Hein, je rappelle le Parlement de Bretagne, incidemment, qui a été le symbole en 94 hein, de manifestation des pêcheurs. Ce progrès, il est aussi lié au poids croissant des organisations de producteurs qui vont davantage responsabiliser leurs adhérents pour respecter les règles mises en œuvre de respect des quotas notamment.
Je crois que j'en ai pêché un beau, disait le poisson optimiste. Au bout de ma ligne, j'ai un bateau, je tire fort mais il me résiste. Il doit faire au moins 100 kilos, mais j'en ai maté des plus forts. Je vais le fatiguer, le tirer dans l'eau, il reviendra plus jamais au port. Le jeu s'enlise et le poisson s'épuise, la mer est grise. Et il ne lâche jamais rien. Il dit, il est coriace, c'est vrai. Puis il appelle tous ses copains. Et très vite on voit arriver des barres, des thons et des marlins. Et tout le monde se met à tirer de toutes ses forces, mais en vain. Le jeu s'enlise et les poissons s'épuisent. La mer est grise. Il y a un bateau, sur ce bateau, il y a un pêcheur qui revient avec 1000 kilos de poissons de toutes les couleurs. Et dans ce tas, il y a un poisson qui rassure ses copains qui pleurent. Je maîtrise tous les gars, c'est bon, et j'ai un plan, n'ayez pas peur. Les autres lui disent, tais-toi et agonise, la mer est grise.
On écoute le poisson d'Oldelaf, on est toujours sur France Culture, entendez-vous l'écho. Et on va continuer notre grande traversée avec Didier Gascuel et Pascal Le Floch. On continue à parler des enjeux de la pêche en Europe. Et justement, quelles sont les institutions qui financent cette politique commune de la pêche dont on a commencé à parler, Didier Gascuel? Quelles sont les sommes en jeu et surtout quels sont les principaux pays bénéficiaires?
Alors, il y a un fonds pour la pêche, un fonds européen très important, hein, qui est périodiquement rediscuté, renégocié au niveau européen, et qui aujourd'hui finance essentiellement l'accompagnement du secteur, la valorisation des produits, mais aussi l'évolution vers des pratiques plus vertueuses. C'est quelque chose qui est très important pour les pêcheurs.
Pascal Le Floch, quels sont les principaux pays qui en bénéficient aujourd'hui?
Alors,
l'Espagne au premier titre.
Oui. Tous les pays en bénéficient, donc l'Espagne, la France notamment, l'Italie également. Il faut ajouter qu'il y a naturellement les fonds européens, mais qui sont accompagnés ou parfois de manière parallèle, il y a également des subventions qui sont accordées pour des mesures conjoncturelles par les États. Mais là, on est sur un autre point, plutôt un point de litige, hein, entre les États qui cherchent aussi maintenir la paix sociale, notamment lorsque le prix du carburant flambe. Et ça pose naturellement quelques situations conflictuelles, puisque en principe, les dimensions concurrentielles doivent être les mêmes pour tous les pêcheurs européens.
Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'Union européenne cherche également à organiser les marchés de la pêche. L'objectif, c'est de stabiliser le marché, soutenir les revenus des pêcheurs, et puis aussi assurer une offre régulière de produits de qualité. Alors, par quel instrument est-ce que cela passe, Didier Casquel?
Alors, pendant longtemps, il y a eu une politique qui était une politique de définition d'un prix minimum garanti. C'est-à-dire que le poisson est vendu dans des criées par un système d'enchères, et lorsque l'enchère descendait trop bas, les organisations de producteurs intervenaient et payaient le poisson à ce prix minimum garanti. Ce mécanisme a beaucoup contribué au développement de la surpêche, d'une certaine manière. Il a été depuis complètement supprimé, ça n'existe plus. La régulation se fait essentiellement sur le marché international, et ce qu'il faut dire en la matière, c'est que le secteur des produits de la mer est un secteur particulièrement internationalisé. Nous consommons une majorité de poissons qui viennent de l'étranger.
Pascal Le Floch, sur cette nécessité d'organiser les marchés au niveau européen, ou peut-être plutôt au niveau international?
Alors, c'est une préoccupation depuis la genèse de la politique commune de la pêche en 70. Hein, les deux règlements, c'était donc, d'une part, on l'a cité tout à l'heure, le droit d'accès, mais d'autre part, l'organisation commune des marchés. Ce que l'on peut dire, c'est que jusqu'en 92, les principaux pays pêcheurs, notamment la France, étaient dans un système relativement abrité de la concurrence internationale. Et le 1er janvier 93, l'ouverture des marchés communs, et ce qu'on peut lire, puisque c'est le début aussi d'une crise sévère, d'une crise de restructuration, faut-il fermer les frontières pour protéger les productions nationales? D'où l'adoption en France, hein, jusqu'en 2014, puisque cela a été supprimé, de prix de retrait pour maintenir un revenu minimum aux pêcheurs.
Ce qui est peut-être important aussi à souligner, c'est le fait que les pêcheurs européens ne se cantonnent pas aux eaux européennes. Plus d'un quart des poissons pêchés par les pêcheurs européens le sont hors de l'Union européenne. Et la possibilité de pêcher hors de l'Europe passe par des négociations de différents ordres, et notamment des accords de partenariat, en général avec les pays du Sud. L'Union européenne offre alors une aide financière et technique en échange de droits de pêche. C'est souvent ce qui se passe avec les pays africains. Sauf qu'en général, ils sortent largement perdants de ce type d'accord, Didier Casquel.
Oui, alors c'est une vieille histoire. Lorsqu'on a décidé de créer les zones économiques exclusives, c'est-à-dire de confier aux États riverains le droit et même la responsabilité de gérer leurs propres ressources halieutiques.
C'est la convention de Montego Bay de 82,
voilà,
dont on parlait hier.
On a en même temps introduit une règle qui est que lorsque les États côtiers n'avaient pas les capacités de pêche, avaient trop peu de flottilles de pêche, pour pêcher les ressources présentes dans leurs eaux, alors elles avaient l'obligation, non pas le droit, l'obligation de négocier, de vendre leurs droits de pêche aux autres pays pêcheurs. Et donc se sont développées à la suite de ça de grandes flottilles industrielles qui vont dans tous les pays. Alors certaines vont dans la haute mer, hein, qui n'est surveillée par personne, notamment qui n'est pas surveillée, on va dire, par les États, notamment les flottilles tonnières. Mais il y a tout un segment des pêches, et notamment des pêches européennes, qui va effectivement dans les pays africains, alors principalement Mauritanie, Maroc et Guinée-Bissau. Et ces flottilles industrielles sont en compétition directe avec les flottilles artisanales locales. En principe, l'Europe se donne bonne conscience en disant qu'on pêche ce qu'on appelle le surplus, avec cette idée que, puisqu'ils ne peuvent pas pêcher toutes les ressources qu'il y a dans leurs eaux, il y aurait un surplus. Mais en réalité, il n'y a pas dans la mer des poissons inutiles qui ne servent à rien et à personne. À partir du moment où une flottille étrangère vient pêcher dans les eaux d'un pays, elle diminue l'abondance de la ressource et ça impacte économiquement les pêcheries locales.
Pascal Le Floch, sur ce déséquilibre des relations de pouvoir entre les pêcheurs industriels du Nord et les pêcheurs artisanaux des pays africains.
Oui, naturellement, on n'est pas dans le même rapport de force lorsque ce sont les flottilles européennes qui vont en Atlantique nord-ouest, au large des côtes de Terre-Neuve canadienne, que par rapport aux flottilles tonnières espagnoles ou françaises qui sont dans l'océan Indien ou en Afrique de l'Ouest, puisque là, on est clairement dans une économie de rente du point de vue des pays africains, mais qui n'ont pas la possibilité de négocier comme le fait le Canada vis-à-vis de l'Europe, c'est-à-dire qu'on a notamment des débarquements de de thonidés en Afrique de l'Ouest ou aux Seychelles, qui sont transformés sur place, mais qui sont ensuite exportés vers le continent européen.
Et puis il y a d'autres négociations particulièrement ardues qui s'annoncent, celle avec le Royaume-Uni après le Brexit. L'enjeu est évidemment central, parce qu'il faut dire que le Royaume-Uni possède les plus grandes eaux territoriales de l'Union européenne et parmi les plus riches en poissons au monde. Le Royaume-Uni qui exporte 75% de sa pêche à peu près vers l'Union européenne, ça va constituer un levier de négociation important pour que les flottes européennes continuent à pêcher dans les eaux britanniques. Didier Gasquel.
Oui, alors là, il y a un enjeu évidemment qui est énorme pour l'ensemble des pêches européennes et pour les pêches françaises en particulier. Les pêcheurs français vont, pour une part très importante de leur production, au moins 30% et en Bretagne plutôt 50%, pêcher dans les eaux anglaises. Donc, dans le cadre du Brexit, il est tout à fait possible que les Britanniques mettent hors de leurs eaux tous les navires non britanniques et que donc ces eaux se ferment. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les poissons, eux, ne connaissent pas les frontières. Et donc les grands stocks européens sont à cheval sur les eaux britanniques et sur les eaux de ce qui resterait de l'Union européenne. Et donc de toute façon, il faut se mettre d'accord sur la gestion de ces stocks, c'est-à-dire finalement sur la définition d'un quota de pêche et sur le partage du quota de pêche. Donc on s'attend à ce qu'il y ait des négociations dans lesquelles les Britanniques demanderont à avoir une plus grosse part du quota de pêche et probablement devront en échange accorder des droits d'accès à certains navires. Et puis, il y a la négociation avec le marché. Est-ce qu'effectivement, le marché européen reste ouvert aux produits aquatiques pêchés en Angleterre ? Donc, l'Europe a dans la manche quelques arguments pour défendre les intérêts de ses pêcheurs.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le problème, évidemment, c'est que la politique, le politique est bien souvent tiraillé entre logique écologique et logique économique.
Au fond, les discussions européennes, en ce qui concerne la pêche, mais c'est la même chose pour tous les autres domaines, c'est souvent des discussions très orientales, des discussions de marchands de tapis. Quand les ministres se réunissent au 14e étage, les professionnels sont en bas au rez-de-chaussée. Et il y a un aller-retour constant entre les collaborateurs du ministre et les pêcheurs. On leur dit, voilà, j'ai obtenu tant de harengs à tel endroit, est-ce que ça marche ? Ah non, il nous faudrait 3000 tonnes de plus. Ah bon, on remonte. Alors, on finit par, au bout d'un moment, avoir quand même globalement un accord. Le premier travail d'un élu, qu'il soit ministre ou qu'il soit député ou qu'il soit maire, c'est d'obtenir le maximum pour le pays. Et les problèmes d'épuisement des ressources, je ne dis pas passent au second plan, mais ce qu'on veut, c'est au moment où il y a la ressource diminue, le gâteau diminue, le rôle du bon ministre en fait, d'un pays, c'est d'obtenir le plus gros morceau de ce gâteau, qui, même s'il diminue. La responsabilité de l'homme politique est très compliquée dans cette affaire. Est-ce qu'il dit, non, tant pis, on va plus construire de bateaux, et puis les pêcheurs, vous direz, vous allez rester au chômage. Tout ça pour défendre, effectivement, le renouvellement des espèces.
Guy Langagne, l'ancien maire de Boulogne-sur-Mer, également ancien secrétaire d'État à la mer, dans un documentaire d'Arte intitulé « Vent contraire, une histoire de la pêche française ». Sur ce tiraillement, Didier Gasquel.
Oui, j'espère, je comprends que cette interview date d'il y a quelques années et que plus personne
n'oserait... Ah non, elle est très récente.
Eh bien, alors je regrette que certains acteurs puissent encore tenir ce langage qui consiste à opposer l'écologie et l'économie. En matière de pêche, l'écologie et l'économie vont parfaitement ensemble. C'est-à-dire que si on veut des pêches rentables, économiquement rentables, il faut, c'est une nécessité, des stocks en bon état. Il faut une grande quantité de poissons dans la mer, il faut des écosystèmes sains et productifs. Donc, la politique de restriction de la pression de pêche par les quotas de pêche est une politique qui poursuit des objectifs écologiques, mais avec derrière, comme ultime finalité, des objectifs de rentabilité économique de la pêche. La vraie opposition, elle n'est pas entre l'écologie et l'économie, elle est entre le court terme et le long terme. C'est-à-dire qu'on sait effectivement que pour des écosystèmes en bonne santé, il faut des fois prendre des mesures qui sont douloureuses à court terme. Douloureuses économiquement, effectivement, j'en conviens pour les pêcheurs. Mais c'est une vision court-termiste, productiviste, le vrai intérêt des pêcheurs, le bon ministre des pêches, c'est celui qui défend au mieux une pêche durable et qui, pour cela, respecte au plus près les avis des scientifiques.
Vous êtes d'accord, Pascal Le Floch, en réalité, les logiques économiques et environnementales, dans le cas précis de la pêche, sont difficilement séparables.
Oui, c'est une évidence. Et je reviens, enfin, pour prendre un exemple du Brexit, il faut naturellement espérer que les négociations se passent au mieux, puisqu'il y a deux faits à relever. C'est que si les Britanniques, effectivement, retrouvent une souveraineté sur les ressources, ils détiennent un poisson, mais pas forcément un produit commercial. Et donc, le marché se trouve surtout dans le sud de l'Europe, en Espagne, Italie, France notamment. Donc, les deux parties ont intérêt à s'entendre. Et deuxième point important, souvenons-nous de l'histoire. Ne soyons pas trop optimistes. En 1984, c'est pas si vieux que ça. L'Espagne et le Portugal vont bientôt entrer dans la communauté économique européenne 86. Mais 84, c'est quand même un aviso escorteur français qui va tirer au canon de 100 mm sur un chalutier espagnol. C'est pas si vieux que ça. Donc, soyons vigilants aussi. Espérons que les négociations se passent au mieux. Et naturellement que écologie et économie sont inséparables.
Alors, il faut dire que la pêche excessive a entraîné une très forte diminution de l'abondance des espèces ciblées par les pêcheurs. C'est notamment le cas des poissons de fond. Là où il y avait autrefois 10 tonnes de poissons sur le fond, il n'en reste qu'une ou deux tonnes aujourd'hui. La question qui se pose, c'est quels effets cette diminution a-t-elle eu sur les écosystèmes ? Il y a eu beaucoup de recherches scientifiques sur ce sujet, Didier Gasquel.
Oui, alors c'est un aspect dont on a pris conscience relativement récemment. On a longtemps pensé la gestion des pêches ou la recherche sur la gestion des pêches dans une approche qu'on qualifie de monospécifique, stock par stock. On gérait la pêcherie de morue, on gérait la pêcherie de plies, etc. Et progressivement, on a pris conscience du fait qu'en diminuant l'abondance de ces grands stocks, on perturbait tout le fonctionnement de l'écosystème. Les proies, les prédateurs, les compétiteurs des espèces qu'on pêchait, mais aussi les habitats avec les engins de pêche qui, dans un certain nombre de cas, raclent le fond. Le fonctionnement des chaînes trophiques, des réseaux trophiques, la biodiversité, la résilience des écosystèmes. Donc, la recherche là-dessus a fait des grandes avancées. On a aujourd'hui une vision beaucoup plus claire de quels sont les impacts de la pêche à l'échelle des écosystèmes. On prend aussi conscience du fait que les écosystèmes évoluent rapidement, notamment à cause du changement climatique ou plus généralement à cause du changement global. Et il faut donc repenser la gestion des pêches, passer d'une gestion des pêches stock par stock à une gestion des pêches à l'échelle des écosystèmes. Il faudra continuer à gérer chacune des composantes, donc à gérer chacun des stocks, mais le faire dans un cadre plus global où on s'intéresse aussi aux réseaux trophiques, aux habitats, à la biodiversité, etc.
Parce que le problème de la surexploitation, c'est que non seulement les stocks diminuent, mais aussi que les poissons s'adaptent en se reproduisant moins. Donc on peut dire, Pascal Le Floch, que les pêcheurs sont en quelque sorte en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis.
Alors effectivement, on parlait de la politique commune des pêches, il ne faut pas faire un procès à cette politique commune des pêches, il y a eu des progrès, lance certainement, mais elle est mise en œuvre en 83, mais il faut attendre 1993, c'est-à-dire la première réforme, pour qu'on introduise la sélectivité des engins. Et le slogan qui est souvent avancé par les pêcheurs, pas tous, c'est qu'il vaut mieux trier le poisson au fond que sur le pont. Ils ont évidemment raison, mais c'est compliqué d'un point de vue technique à le faire. Et c'est pas une affaire simple. Si on prend simplement la côte atlantique, le golfe de Gascogne, vous avez 300 espèces commerciales différentes. La plupart sont certes des espèces accessoires, mais ce qui veut dire que du point de vue commercial, c'est 300 segments de marché. Donc c'est extrêmement lent à faire et ça pose aussi la question de quel type d'espèces doit-on en priorité assurer la sauvegarde, la protection.
On pêchait à peu près 20 millions de tonnes de poissons en 1950. C'est 4 fois plus que 70 ans plus tôt. Et cela grâce à la motorisation des bateaux. Et cette production, elle ne va cesser d'augmenter jusqu'à un pic de 86 millions qui est atteint à la fin des années 90. Depuis, ce qu'on peut dire, Didier Gasquel, c'est que la pêche recule. Mais au niveau mondial, l'aquaculture va venir compenser ce recul de la pêche.
Oui, alors la pêche mondiale, effectivement, stagne, recule un peu, d'après les chiffres officiels que vous avez cités. Certaines études qui essayent de redonner les chiffres non officiels parlent même de recul le plus important. Donc, incontestablement, on a atteint un plafond et même probablement dépassé un plafond en matière de pêche. Partout où on essaye de dépasser ce plafond, la catastrophe est au rendez-vous, la surexploitation des stocks, l'effondrement des pêcheries, etc. Donc, on pourrait, en gérant mieux, en gérant bien tous les stocks, pêcher peut-être un petit peu plus, mais pas beaucoup. On est à la limite. Donc, si la demande en poisson augmente, effectivement, il faut que ce soit l'aquaculture qui prenne le relais. Et c'est ce qu'elle fait de manière très forte depuis une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'années. La production aquacole était encore quasiment négligeable dans les années 70. Aujourd'hui, elle représente plus que la pêche en mer. Mais attention, cette aquaculture n'est pas celle à laquelle pensent probablement vos auditeurs.
Alors,
c'est d'abord une aquaculture qui se fait en Asie. À 90%, l'aquaculture se fait en Asie. Sur des espèces qu'on appelle herbivores, la carpe ou d'autres. Ces poissons-là contribuent énormément à l'accroissement des apports de protéines animales dans les pays asiatiques, et notamment en Chine. Et voilà, elle résout un problème de demande. En Europe, nous consommons des poissons issus d'une aquaculture plus intensive. Je pense au saumon, par exemple, qui est la première espèce consommée actuellement en France. Cette aquaculture-là, elle a des impacts écologiques qui sont finalement pires que la pêche. Ne serait-ce que parce que ces poissons sont des poissons piscivores qui se nourrissent dans la nature de poissons eux-mêmes et que donc on nourrit aujourd'hui avec de la farine de poisson, c'est-à-dire avec de la pêche.
Donc
on aggrave le phénomène de surpêche. Alors il y a de la recherche faite en aquaculture pour améliorer, trouver des produits de substitution à la farine de poisson, etc. Ce segment évolue aussi. Mais l'image un peu naïve selon laquelle l'aquaculture c'est la solution pour résoudre les problèmes de surpêche, c'est une image qui n'est pas conforme à la réalité. Elle les aggrave plutôt et en aucun cas, elle ne conduit un pêcheur à gérer ses ressources de manière durable. Il faut de toute façon, que l'aquaculture se développe ou pas, gérer les pêches de manière durable.
Pascal Le Floch, l'aquaculture comme solution idéale, ce serait aller un peu vite en besogne ?
Oui, certainement, aller un peu vite en besogne, mais c'est là aussi où, si l'écologie et l'économie sont inséparables, elles ne suivent pas nécessairement toujours la même trajectoire. Ça veut dire que l'effondrement d'un stock n'est pas forcément une mauvaise nouvelle du point de vue économique. Je me base encore sur ce qui est le cas d'école en halieutique, l'effondrement du stock de morue au large des côtes canadiennes. Si effectivement le nombre de pêcheurs a fortement diminué une fois que le moratoire était appliqué en 92, c'est-à-dire l'interdiction de la pêche, du point de vue économique, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque les revenus tirés d'autres pêcheries, le crabe des neiges, le homard, le revenu global à l'échelle de Terre-Neuve notamment, est supérieur à ce qu'il était obtenu avant. Mais naturellement, pas avec la même population de pêcheurs et pas avec le même nombre.
Alors, il faut peut-être repenser aujourd'hui notre consommation. En France, la consommation de pêche stagne depuis une dizaine d'années, à environ 35 kilos par personne et par an. C'est trois fois plus que la moyenne mondiale. Ce qu'on observe, c'est que finalement, il n'y a pas le même recul que pour la viande. Vous diriez, Didier Gasquel, que c'est lié au fait que les mentalités sur les conséquences environnementales de la surpêche n'ont pas atteint les consciences, finalement ?
Alors, je pense qu'elles atteignent progressivement les consciences. Si on reprend les chiffres que vous avez donnés, effectivement, on consomme 35 kilos de poissons, dont 25 issus de la pêche, et donc à peu près 10 de l'aquaculture. Si vous faites le calcul à l'échelle mondiale, la production mondiale est limitée, et si on divise par le nombre de terriens moyens, ça veut dire que nous avons droit chacun à 8 kilos de poissons de pêche, poissons sauvages, chaque année. Donc un Français mange trois fois la ration à laquelle il a le droit. Nous mangeons d'abord le poisson des autres. Et dans certains pays, et notamment dans des pays africains où la consommation de poissons est très importante pour des objectifs de sécurité alimentaire, la consommation est en recul. Donc le premier conseil qu'on peut donner à des consommateurs qui souhaitent avoir un comportement responsable, c'est de leur dire, méfiez-vous, le poisson sauvage, c'est quelque chose de rare. Consommez-le, mais consommez-le comme une fête. Vous devez probablement en consommer d'abord moins. C'est la première recommandation qu'on peut faire.
Il faut repenser notre consommation de poissons, ne serait-ce que pour des questions d'équilibre mondial. Pascal Le Floch ?
Eh bien, la première question que vous posiez, est-ce que la pêche est une activité essentielle en Europe ? Oui, si c'était ma réponse, on la regarde d'un point de vue des territoires. Et effectivement, on assiste actuellement à une forme de mutation des façons de commercialiser le poisson en circuit court, en circuit de proximité. Et la sardine, même mise en boîte, devient parfois un bien de luxe dans certaines brasseries parisiennes.
Un mot de conclusion peut-être, Didier Gasquel, sur l'avenir de cette pêche européenne ?
Oui, j'ai envie de dire que l'Europe a fait une démonstration quand même extrêmement importante, qui est que lorsque la volonté politique s'affirme, on peut prendre des mesures efficaces, et ces mesures efficaces payent. Je voudrais juste rajouter un chiffre, quelques chiffres que j'ai cités. Vous disiez tout à l'heure, là où il y avait 10 tonnes de poissons sur le fond, il n'y en a maintenant plus qu'une ou deux. Oui, c'était vrai, sauf que ce chiffre est en train de commencer à réaugmenter. On estime que les mesures de gestion qui ont été prises, la baisse de la pression de pêche a conduit à une augmentation déjà de 40% des biomasses. On est en chemin. On espère aller beaucoup mieux, beaucoup plus loin. On partait de tellement mal, de tellement bas, que c'est encore très insuffisant. On espère augmenter encore au moins d'un tiers, de deux tiers. Et surtout, il faudra, à l'avenir, évoluer vers une approche plus écosystémique, c'est-à-dire s'intéresser aussi aux écosystèmes, aux habitats, aux engins, voilà. Et puis, je pense qu'il y a un très grand chantier à mener pour décider de quel type de pêche nous voulons. C'est un aspect dont on a un peu parlé aujourd'hui. Une pêche plus artisanale, une pêche au service du développement des territoires, une pêche dans laquelle on maximise l'utilité économique et sociale des services que nous rend la nature, notamment en matière de pêche.
Il faudra repenser la pêche. Ça sera l'objet de prochaines émissions d'Entendez-vous l'écho. Il est 14h53 et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous nous parlez aujourd'hui du plus grand des prédateurs marins.
C'est une créature redoutable qui ratisse et moissonne le fond des océans pour satisfaire son appétit insatiable. Dépourvue de branchies, sans ailerons ni nageoires, elle règne pourtant sans partage sur la terre et les flots, imposant son empire à tous les animaux. Ce prédateur tout-puissant, vous l'aurez compris, c'est l'homme. Présent sur toutes les mers du globe, l'homo sapiens améliore chaque jour ses outils, agrandit ses bateaux, rallonge ses filets pour pêcher toujours plus de poissons et crustacés. Et une fois les poissons de surface épuisés, les hommes se sont tournés vers les profondeurs pour piocher dans la nature jusqu'alors préservée. Des créatures du fond des mers ont alors fait leur apparition sur les étals avant de disparaître, elles aussi, par la voracité de l'homme. C'est notamment le cas de l'empereur qui a disparu, quasiment disparu de l'Atlantique Nord alors que sa capture à l'échelle commerciale ne remonte qu'aux années 80. Un poisson qui peut pourtant vivre jusqu'à 150 ans. Il a donc été décimé en une génération sans qu'on ait laissé le temps aux individus de se reproduire.
L'homme est ainsi à l'origine de la sixième extinction de masse.
Oui, et alors qu'il avait fallu la puissance d'un astéroïde pour entraîner la chute des dinosaures il y a 66 millions d'années, c'est cette fois l'homme dans toute sa splendeur qui est le déclencheur de ce carnage. Ainsi, le taux d'extinction actuel serait de 100 à 1000 fois supérieur au taux naturel en fonction des espèces. Et c'est bien l'homme qui est le principal responsable de ces disparitions en milieu marin. Des chercheurs américains ont ainsi montré dans la très sérieuse revue Science que la menace d'extinction qui pèse sur les espèces maritimes est étroitement liée à leur taille. Or, si ces disparitions étaient uniquement liées au changement climatique, elles toucheraient de manière aveugle grosses et petites bêtes de la mer. Comme l'expliquent les chercheurs, la seule raison possible à cette sélection reste donc l'exploitation du système marin par l'homme et la surpêche.
On pense notamment à la baleine, aujourd'hui en voie d'extinction.
Exactement, le plus gros animal de la création est aujourd'hui largement menacé en dépit des mesures de protection et de l'interdiction de pêche instaurée en 1986. Car c'est bien sûr la chasse qui est le premier facteur de mortalité pour les grands cétacés. En dépit des interdictions, la chasse baleine se poursuit et ce sont plus de 1000 baleines qui sont tuées chaque année par des marins d'Islande, de Norvège ou du Japon. Le Japon, qui milite d'ailleurs activement au niveau international pour réautoriser la pêche commerciale de la baleine. Il effectue ainsi sans relâche cette proposition au sein de la Commission baleinière internationale qui régule la chasse à la baleine depuis plus de 70 ans et réunit 89 États membres. La délégation nippone a ainsi présenté une motion lors de la dernière réunion de cette commission baleinière le 14 septembre dernier afin de mettre un terme au moratoire de 1986. Mais le texte a été torpillé par une coalition de pays anti-chasse parmi lesquels l'Australie, l'Union européenne et les États-Unis. Un camouflet pour le Japon qui a menacé de quitter la commission si les preuves scientifiques n'étaient pas respectées et la chasse commerciale à la baleine totalement niée.
Une position qui est difficile à comprendre alors même que les Japonais ne mangent presque plus de baleines.
Effectivement, et si officiellement les autorités japonaises prétendent chasser la baleine pour des raisons scientifiques, c'est en réalité un prétexte pour contourner la décision d'interdire la chasse commerciale, qui vient d'ailleurs d'être déclarée illégale par la Cour internationale de justice. Une condamnation que le gouvernement nippon a balayée d'un revers de main, expliquant que la chasse à la baleine était une tradition millénaire. L'interdire reviendrait donc à porter atteinte à la culture japonaise. Il faut dire que l'homme sait se montrer créatif pour justifier sa toute puissante mainmise sur le vivant, y compris quand celle-ci menace à moyen terme sa propre subsistance.
Thank you. On se quitte sur In the Mouth of the Fish d'Herlock. Merci beaucoup Didier Gascuel, Pascal Le Floch. Didier Gascuel, vous allez sortir un livre L'Homme et les Poissons, il sera publié début 2019 chez Actes Sud. Et Pascal Le Floch, je rappelle votre livre également, Les Pêches Maritimes Françaises 1983-2013, paru aux Presses Universitaires de Rennes. Merci également aux techniciens des bureaux de Radio France à Quimper qui ont permis ce duplex. Vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Et rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.